Bienvenue sur France Culture, il est midi et demi. Le journal Thomas Cluzel, bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Après plus de 3 années d'enquête, le groupe pharmaceutique Sanofi a été mis en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires dans l'affaire de la commercialisation de l'antiépileptique de référence Dépakine.
Et dans votre journal également, le nombre de jeunes entrés en apprentissage a progressé l'an dernier en France pour atteindre un nouveau record.
Oui, ce qui n'a pas manqué de lancer aussitôt une bataille entre les régions d'un côté et le gouvernement de l'autre afin de déterminer qui devait s'attribuer ces bons résultats. L'examen de la réforme des retraites se poursuit en commission spéciale à l'Assemblée nationale, invité de la rédaction. Dans une dizaine de minutes, Guillaume Gouffier-Chat, député La République En Marche du Val-de-Marne et rapporteur du projet de loi.
Direction ensuite les États-Unis où le premier scrutin des primaires démocrates a viré au fiasco hier, faute de résultats officiels.
Oui, ce qui n'a pas empêché le sénateur Bernie Sanders de se revendiquer en tête de cette course, donc pour désigner le futur adversaire de Donald Trump. Enfin, de nouvelles mesures de confinement ont été prises ce matin en Chine, signe de l'inquiétude des autorités face à la propagation du nouveau coronavirus qui a fait un premier mort à Hong Kong. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Comment vivre parmi les autres avec nous dans une vingtaine de minutes, un philosophe de la nature, Baptiste Morisot, à l'occasion de la sortie de son nouvel essai « Manière d'être vivant », il nous en dira tant dans une vingtaine de minutes donc.
Merci et à tout à l'heure. Après l'isoméride, le médiator ou bien encore le lévothyrox, la dépakine a elle aussi rejoint depuis longtemps déjà la liste de ces médicaments dont le nom n'est plus aussi associé aujourd'hui à autre chose qu'à un énième scandale de santé publique majeur. Hier soir, le groupe pharmaceutique Sanofi a donc annoncé sa mise en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires dans l'affaire de la commercialisation de cet antiépileptique de référence commercialisé depuis 1967, prescrite notamment aux personnes souffrant de troubles bipolaires et à l'origine de milliers de malformations congénitales. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Alors l'affaire n'est évidemment pas nouvelle. Depuis l'ouverture d'une enquête en France, c'était en 2016, ce médicament avait fini par être interdit 2 ans plus tard aux femmes enceintes et à celles en âge de procréer, sauf circonstances exceptionnelles. En revanche, à l'instar d'ailleurs des laboratoires Servier, poursuivis eux pour homicide et blessures involontaires dans le scandale dit du Mediator, renvoyé devant le tribunal correctionnel, eh bien le groupe pharmaceutique Sanofi va cette fois-ci à son tour devoir s'expliquer donc au pénal. Et en ce sens, Tara, la procédure donc initiée depuis 2016 a véritablement franchi hier soir une étape importante.
Il aura fallu presque 4 ans d'instruction pour que le laboratoire soit mis en examen. Marine Martin est celle qui a fait le lien en 2009 déjà entre ce médicament prescrit pendant sa grossesse parce qu'elle était épileptique et les problèmes graves de son fils. Elle est donc l'une des premières à avoir porté plainte au pénal. 37 familles environ l'ont rejointe.
Mon fils est aujourd'hui autiste, handicapé à plus de 80%. Il souffre de malformations urogénitales, de troubles de l'attention, de dyspraxie, tout ça. Aujourd'hui fait qu'il a besoin d'une tierce personne au quotidien pour l'assister. Il ne peut pas prendre le bus pour aller en cours. Voilà, donc ça m'a obligée de m'arrêter de travailler pour m'occuper de lui. Et malheureusement, enfin, il faut rappeler qu'on est des mamans malades d'épilepsie. Moi, je peux en mourir d'une crise d'épilepsie. Donc effectivement, c'était capital pour moi. La mise en examen, c'est un chef d'inculpation extrêmement grave. Et ça va obliger Sanofi à se justifier. Lui qui dit qu'il n'est pas responsable, qui rejette systématiquement la faute sur l'agence du médicament, c'est pas acceptable.
Pour la fondatrice de l'association des victimes de la dépakine, qui accompagne aussi les victimes dans des procédures civiles pour obtenir des réparations financières, la procédure au pénal est justement bien différente car elle permet de démontrer une intention réelle de nuire de la part de Sanofi. Intention que Marine Martin assure avoir prouvée au juge d'instruction. Les centres régionaux de pharmacovigilance ont signalé au laboratoire des cas d'enfants atteints dès 1982 pour les malformations et 1981 4 pour l'autisme. Les fabricants savaient, martèlent les familles. L'agence du médicament estime que 14 000 parents pourraient demander réparation. Pour l'instant, Sanofi a toujours refusé de payer et c'est l'État qui règle la facture quand le fonds d'indemnisation qui a été créé spécialement en 2016 pour faire face à l'ampleur du scandale juge qu'une famille a besoin d'aide.
Merci Tara Schlegel. Après les bons chiffres de l'emploi, voilà un nouveau record dont le ministère du Travail n'aura pas manqué de se féliciter ce matin en 2019. Le nombre de jeunes entrés en apprentissage a progressé de 16%. Alors plusieurs raisons à cela. L'entrée en centre de formation d'apprentis a été assouplie pour les jeunes et puis leurs conditions d'emploi ont été améliorées tout en étant rendues plus flexibles. Reste évidemment la polémique autour de l'interprétation de ces chiffres. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Les régions qui ont financé donc l'apprentissage à hauteur de 9 milliards d'euros sur les 5 dernières années estiment que ces bons résultats ont été obtenus grâce à leur action. Une manière de rappeler, Catherine, que depuis 2 ans, un bras de fer oppose en réalité donc les régions qui souhaitaient garder leurs compétences en matière d'apprentissage des jeunes et puis le gouvernement de l'autre côté qui a confié donc ses compétences l'an dernier aux branches professionnelles.
Oui, alors bien sûr, aujourd'hui, c'est à qui s'appropriera ces bons résultats. Une progression à 2 chiffres, plus 16%, vous le disiez, c'est important. Le ministère du Travail met en avant le redémarrage dans le secondaire, notamment au niveau CAP et Bac Pro. Ces dernières années, c'est surtout parmi les diplômés du supérieur qu'augmentait le nombre d'apprentis. Plus en détail, la hausse est de 37% chez les Compagnons du Devoir, de 15% dans les maisons familiales rurales et de 3% dans les chambres des métiers et de l'artisanat. Le gouvernement y voit un effet de sa loi Avenir professionnel de 2018, laquelle simplifie l'entrée en apprentissage, désormais possible n'importe quand dans l'année, jusqu'à 30 ans. Et par ailleurs, pour les chefs d'entreprise, les dossiers sont moins complexes. Mais cette séquence de communication gouvernementale irrite les régions. Ce matin, l'Association des régions de France accuse même la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, de vouloir effacer le rôle des régions et de s'approprier leurs résultats. Hier, 12 présidents de régions ont dénoncé dans une tribune la reprise en main par l'État de la responsabilité politique de l'apprentissage. Rappelons qu'elles ont perdu le bras de fer au moment de la négociation de la réforme, alors que leur rôle était central. La loi les a sortis du système en libéralisant l'ouverture des CFA, les centres de formation des apprentis, et en modifiant profondément l'architecture du financement qui ne passe plus par les régions. Alors au-delà de ce conflit politique, ici ravivé, une des inconnues et ce qu'il faudra scruter dans les prochains mois, c'est l'avenir financier d'un certain nombre de centres de formation des apprentis et d'éventuelles fermetures.
Merci Catherine Pétillon. La police a évacué ce matin le dernier campement de migrants du nord-est de Paris. 400 personnes au total installées porte de la Villette à Paris. D'après les associations présentes sur place, cette évacuation s'est déroulée dans le calme assez rapidement. Une opération qui répond par ailleurs à la promesse gouvernementale de vider donc cette zone géographique de la capitale des camps insalubres. Stéphane Geneste, bonjour.
Bonjour.
Alors si la préfecture de police s'enorgueille de cette annonce, les associations, Stéphane, sont nettement plus mesurées.
Oui Thomas, elles dénoncent une opération de communication de la part des autorités. Selon les membres des associations qui viennent en aide aux migrants, l'évacuation de ce dernier campement n'est pas synonyme de leur disparition dans la capitale et aux alentours. Pour Florent Boyer, coordinateur de l'association Utopien 56, tout cela est un écran de fumée.
C'est la fin à l'instant T, parce qu'il y a des petits campements qui se reforment vers le canal Saint-Denis, mais plus côté Aubervilliers-Saint-Denis. Donc c'est bien pour la mairie de Paris et la préfecture de police, parce que du coup, c'est plus dépendant de Paris. Mais il y a déjà des petits campements qui se reforment. Alors pour l'instant, c'est très petit et c'est contrôlé par les policiers. Donc ils empêchent que ça devienne massif. Mais en l'état, oui, il y avait Port de la Chapelle, il y avait Port d'Aubervilliers, il y avait Port de la Villette. Ces 3 campements n'existent plus, mais jusqu'au prochain, quoi.
Les associations pointent du doigt aussi la procédure Dublin. Cette procédure indique que le pays dans lequel a été formulée la demande d'asile est chargé de l'examiner, mais doit aussi en donner une décision finale. Florian Boyer de l'association Utopia 56 met également en avant le manque de moyens pour accompagner les migrants une fois qu'ils sont arrivés sur le territoire français et le passage obligé par ces campements.
Pour un demandeur d'asile, quelqu'un qui, quand même, à la base, fuit la guerre, fuit des conditions, la guerre ou autre chose, mais bon, fuit des traumas pour faire toute cette route pour arriver chez nous. Le campement de rue, donc la vie à la rue avec tous les vices qui vont avec, c'est devenu un passage obligé, en fait, de la demande d'asile. Il n'y a quasiment personne qui arrive en France, qui demande l'asile et qui va être hébergé directement et qui ne va pas connaître la rue et tous les vices qui vont avec.
Les personnes évacuées ont été réparties dans des gymnases et des centres d'accueil et d'examen de situation. Les associations sont mobilisées et s'attendent donc à d'autres installations de campements dans les prochains jours, malgré un important dispositif policier pour empêcher ces reformations de camps.
Merci Stéphane Geneste. Alors que le front social sur la réforme des retraites ne s'est pas encore totalement refermé, un nouveau terrain d'affrontement parlementaire, cette fois-ci, s'est ouvert hier. Le projet de loi du gouvernement a fait son entrée à l'Assemblée pour un examen en commission spéciale. Un nouveau bras de fer donc démarré au ralenti et où les oppositions, France Insoumise en tête, ont choisi de pilonner quasiment au mot près le texte porté par la majorité. En parallèle, la conférence de financement se poursuit, elle, entre les partenaires sociaux. Et puis, même si la grève a tendance à s'estomper de plus en plus, hier encore, les professionnels du droit, mais aussi de la santé et des transports aériens étaient toujours mobilisés pour manifester leur mécontentement. Par ailleurs, à Paris comme à Marseille, la colère fait désormais déborder les poubelles avec la grève des éboueurs et agents publics chargés du ramassage et du traitement des ordures ménagères. Enfin, signalons qu'une nouvelle journée d'action interprofessionnelle est prévue jeudi. Alors, en dépit de tous ces épisodes, le gouvernement reste lui confiant et garde en tête de faire adopter son projet de loi avant les vacances d'été. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Guillaume Gouffier-Chat, député La République En Marche du Val-de-Marne et rapporteur du projet de loi sur la réforme des retraites en direct et en duplex de l'Assemblée nationale. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Rosalie Lafarge. Bonjour Rosalie.
Bonjour.
Une première question toutefois, monsieur Gouffier-Chat. Aujourd'hui, la majorité présidentielle à laquelle vous appartenez accuse l'opposition de bloquer le cours de l'examen du texte en commission spéciale, quand d'autres diront sans doute qu'elle ne fait au fond que jouer tout simplement son rôle. Est-ce que après des semaines de mobilisation pour réclamer le retrait de ce texte, vous vous attendiez sincèrement à ce que les représentants de tous ceux qui n'appartiennent pas à votre majorité votent pour vous?
Alors, non, on s'attendait à ce que les différentes oppositions, bien entendu, questionnent le texte et amendent le texte. Après, ce que l'on constate, c'est qu'un groupe, l'opposition, la France Insoumise, fait le choix de l'obstruction massive, puisque sur les 22 000 amendements, 20 000 sont déposés par la France Insoumise, dont certains amendements qui quand même peuvent sourire, parce que c'est beaucoup d'amendements de suppression de virgule, c'est parfois aussi des amendements de suppression d'avancées sociales particulièrement fortes dans le texte. Et ce que je constate, c'est que les autres groupes d'opposition, en tout cas, pour le moment, font le jeu du débat de fond, article après article, et c'est ce que nous devons à nos concitoyennes et nos concitoyens sur ce sujet majeur.
Mais même certains à droite, par exemple, assurent que ça arrange bien le gouvernement, finalement, que ces amendements soient là en masse, parce que du coup, on ne peut pas vraiment faire de débat sur le fond.
Non, ça arrange pas le gouvernement. Nous, on attendait ces travaux à l'Assemblée nationale pour un débat sur le fond. C'est une réforme qui est majeure, sur laquelle il est normal que nos concitoyennes et concitoyens soient en attente de réponses. Et donc, nous, on attendait ce débat pour avoir le débat sur le fond, article après article, ligne après ligne, bien entendu. Et puis également pour améliorer le texte du côté, notamment de la majorité, comme d'autres groupes. Donc, ça n'arrange pas le gouvernement. Nous, la question, quand on sait comment... On voit comment fonctionnent notamment les débats parlementaires. On sait que la commission a un rôle particulièrement important puisque ça permet de cranter un certain nombre de sujets. Je pense par exemple aux droits familiaux où nous avons un certain nombre de questionnements. Nous voulons aller plus loin que ce que propose le texte.
Oui, mais sauf qu'avec 22 000 amendements, hier, vous n'avez pu en examiner que 245.
Alors,
vous n'irez jamais au bout.
Alors, on a pu que, effectivement, on a démarré quand même sur une... On a étudié beaucoup d'amendements hier, 244. Moi, j'ai connu des journées beaucoup plus compliquées où on étudiait peut-être qu'une quarantaine ou une cinquantaine d'amendements sur la journée. Le sujet, c'est qu'il en reste énormément et qu'on a un certain nombre de sujets majeurs qu'il faut aborder. Alors après, l'avantage sur l'article, sur le premier titre du texte, c'est que tellement d'amendements sont déposés sur des sujets qui concernent pas forcément le titre 1, que cela nous permet d'aborder des sujets qui ne sont pas forcément sur le titre 1. Et par exemple, je pense aux droits familiaux, je reviens dessus, qui sont sur le titre 3. Nous avons pu, dès hier, les aborder, et notamment signaler du côté de la majorité que nous étions particulièrement demandeurs d'avancer, par exemple, de réparation au moment du divorce, parce qu'on constate au moment du divorce une explosion des inégalités entre les femmes et les hommes, et que nous voulons aborder la question du partage de points retraite au moment du divorce, qui n'est pas dans le texte pour le moment, il y a une accroche dans le texte, et nous pensons que nous pouvons aller plus loin. Et donc, nous commençons nos débats avec le gouvernement et nous attendons de ces échanges une possibilité d'aboutir d'ici la séance sur ce sujet, par exemple.
Mais si vous n'arrivez pas au bout de l'examen de tous ces amendements, qu'est-ce qui se passe? Certains évoquent un recours à l'article 49.3 de la Constitution. C'est envisageable?
Non, pour le moment, non. Ce n'est pas envisageable. Ce qui se passe, si le texte n'arrive pas au bout, c'est qu'en séance, nous repartirons du texte du gouvernement en séance. Et je n'ai pas... de doute sur le fait que nous arriverons au bout des débats en séance. Et ces débats, nous devons les avoir. Il y a, d'un côté, nous devons les avoir parce qu'il faut expliquer le sens de cette réforme. Nous avons entendu beaucoup de choses fausses en commission hier sur le fait que ce système ne serait pas universel, que ce système ne réparerait pas un certain nombre d'inégalités, qu'il serait un système par capitalisation, c'est faux. Nous maintenons un système par répartition pour la totalité des Françaises et des Français. Nous le rendons plus lisible parce que ce sera un système dans lequel tous les Français seront tous et donc une meilleure lisibilité.
L'opposition n'est pas d'accord, mais ça c'est travail.
Ce sur le quoi il n'est pas d'accord, mais aujourd'hui il y a 42 régimes, personne ne comprend rien à notre système, ce qui crée aussi des inquiétudes auxquelles nous devons répondre, et nous pensons que le système universel y répond. Par ailleurs, ce système doit nous permettre de répondre à des inégalités qu'on constate dans notre système aujourd'hui. Le ministre a pu le rappeler hier, la réalité de notre système aujourd'hui de retraite, c'est que les personnes qui ont les carrières les plus heurtées, les plus difficiles, partent plus tard que les personnes qui ont des carrières continues et ascendantes. Et ce projet de loi va y répondre, puisque nous permettons notamment à 30% demain de nos concitoyens qui connaissent le plus de difficultés de partir plus tôt et avec des meilleures pensions.
Guillaume Gouchard, on est un peu pris par le temps, mais qu'est-ce que vous diriez de ce vote de votre groupe sur l'allongement du congé du deuil pour les parents qui ont perdu un enfant? Le gouvernement, la majorité, on parle d'une erreur. Comment on en arrive à cette erreur?
Manifestement, il y a eu une erreur, et moi je comprends l'émoi que suscite ce sujet. Maintenant,
qu'est-ce que vous n'aviez pas compris?
Nous devons. Alors, faut revoir. Moi, je n'étais pas dans l'hémicycle au moment où il y a eu les débats. J'étais en commission spéciale. Il y avait débat, notamment de ce que je peux comprendre sur le sujet, si ces jours devaient être pris sur comment on accompagne mieux, au fond, les personnes qui sont touchées par ce drame. C'est le pire drame de perdre un enfant. Et est-ce que il faut apporter une réponse par plus de jours de congés, ou est-ce qu'une meilleure prise en charge par la sécurité sociale? Nous devons, quoi qu'il arrive, reprendre notre copie, revoir notre copie et apporter des réponses le plus rapidement possible. Le texte a été adopté à l'Assemblée nationale, il sera discuté au Sénat et je pense que nous pouvons encore l'enrichir.
Et Stanislas Guérini, le patron de La République En Marche, promet d'aller plus loin. Merci beaucoup, Guillaume Gouffier-Char.
Merci à vous.
Député La République En Marche du Val-de-Marne, je le rappelle, rapporteur du projet de loi sur la réforme des retraites. Merci également à Rosalie Lafarge ainsi qu'à Laurent Lucas pour les moyens techniques. Ils étaient 5 de chaque côté de la table des négociations ce matin à Genève. 5 militaires nommés par le gouvernement libyen d'un côté et 5 envoyés par le maréchal Haftar de l'autre. Une première dans ce conflit qui oppose les forces donc du gouvernement d'Union Nationale aux troupes de l'homme fort de l'Est du pays. Sauf que le plus dur reste évidemment encore à faire. Les deux camps accepteront-ils de transformer une trêve fragile en un cessez-le-feu durable? Pour l'heure, aucune des parties au conflit ne semble prête a priori à baisser les armes. Les précisions à Genève de notre correspondant Jérémy Lange.
La réunion du comité militaire conjoint aurait dû démarrer la semaine dernière aux Nations Unies, mais c'était sans compter le refus du maréchal Haftar d'envoyer ses représentants. Depuis, Hassan Salamé s'est rendu à Benghazi pour arracher la participation de l'homme fort de l'Est libyen aux discussions. Maigre victoire pour l'émissaire de l'ONU au moment où les armes affluent de partout en Libye.
Nous sommes inquiets parce que des résolutions assez claires prises à Berlin ne sont pas respectées par les deux parties au conflit. De nouveaux mercenaires, de nouveaux équipements sont en train d'arriver au profit des deux parties, par voie d'air, aussi par voie de mer.
La crainte, c'est que la réunion de Genève connaisse le même sort que celle de Berlin le 19 janvier, avec un accord de cessez-le-feu accepté du bout des lèvres par les deux camps, mais complètement ignoré sur le terrain. Hassan Salamé espère que le Conseil de sécurité de l'ONU va mettre de côté ses dissensions pour adopter une résolution qui renforce l'embargo sur les armes. Un embargo qui date de 2011, mais lui aussi resté lettre morte. Il y a 22 millions d'armes en circulation en Libye, a dit Hassan Salamé. Le pays n'a pas besoin d'en avoir plus.
Depuis la nouvelle offensive lancée le mois dernier par le régime de Damas dans la province d'Idleb, le ton ne cesse décidément de monter avec la Turquie, laquelle a déployé ces derniers jours de nouvelles troupes dans la province afin de tenter d'enrayer la progression des troupes syriennes. Il faut dire que l'avancée de l'armée de Bachar el-Assad dans le nord-ouest du pays et les bombardements de l'aviation russe ont poussé de plus en plus de civils à fuir vers la frontière turque, ce qui fait craindre aux autorités d'Ankara une nouvelle vague de réfugiés. Hier, des combats d'une violence inédite ont ainsi opposé soldats turcs et syriens, faisant plus de 20 morts, soit l'une des plus graves confrontations entre les deux camps dans le pays en guerre. Même si ce n'est pas le premier et encore moins le dernier déboire dans l'organisation d'élections aux États-Unis, la frustration n'en reste pas moins palpable ce matin. Et pour cause, hier soir, le premier scrutin des primaires pour désigner le ou la démocrate qui affrontera Donald Trump à la présidentielle de novembre prochain a tourné au fiasco face à l'incapacité des organisateurs à publier des résultats. Les organisateurs évoquent des incohérences dans leur compilation et expliquent vouloir s'assurer de la fiabilité des données. Bien évidemment, ils ont aussitôt démenti toute irrégularité. Et de manière tout aussi attendue, le camp de Donald Trump s'est lui empressé d'accuser les dirigeants démocrates de tricherie. Isabelle Raymond, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyée spéciale à Washington. Alors, on ne sait toujours pas quand les résultats définitifs seront annoncés. Précisons toutefois que le héros de l'aile gauche, le sénateur donc Bernie Sanders, est lui déjà déclaré en tête. Selon ses propres chiffres partiels, il obtiendrait un peu plus de 28% des voix, devançant de 3 points le nouveau venu et jeune trentenaire Pete Buttigieg. Viendrait ensuite la sénatrice Elizabeth Warren et loin, très très loin derrière, l'ancien vice-président Joe Biden avec seulement 15%. Tout cela reste évidemment à confirmer, Isabelle, mais d'ores et déjà, on peut dire que cette primaire démocrate ne pouvait pas plus mal commencer.
Oui, c'est sûr qu'un lancement de primaire démocrate où on se couche sans savoir qui a gagné et on se réveille le lendemain matin avec une situation tout aussi chaotique, ça n'aide pas à installer une opposition forte à Donald Trump dès le début de la campagne. Alors que s'est-il vraiment passé? Vous le savez sans doute, le caucus de l'Iowa, c'est un système particulier, décrié, où les sympathisants du parti se retrouvent dans les écoles, les gymnases, les appartements parfois, et se rassemblent par petits groupes dans la salle en fonction de leur candidat préféré. Le candidat doit avoir 15% minimum pour être qualifié et on peut comme ça changer de candidat pendant le scrutin. C'est folklorique, c'est archaïque aussi. Les résultats sont notés sur des bouts de papier et c'est organisé par le parti lui-même. Alors cette année, le Parti démocrate a voulu innover, moderniser un peu ce processus issu du passé et a fourni une application mobile sur Internet donc pour retranscrire les résultats. Sauf que visiblement, tout n'était pas très bien calé avec des codes secrets qui ne fonctionnaient pas, des responsables démocrates locaux pas formés à utiliser cette application, une assistance en ligne complètement défaillante, bref, un fiasco, au point donc qu'au milieu de la nuit, vers 2h30 du matin, le Parti démocrate décide de tout stopper, parlant d'incohérence dans les résultats, annonce vouloir les vérifier un à un à la main. Ça prend évidemment du temps, Thomas, et aux dernières nouvelles, les résultats officiels ne devraient pas être proclamés avant plusieurs heures.
Merci Isabelle Raymond, en direct de Washington, toujours aux États-Unis. Donald Trump prononcera lui ce soir son traditionnel discours sur l'état de l'Union face à un congrès divisé comme jamais par son procès en destitution. Alors jouera-t-il la carte du rassemblement ou soufflera-t-il sur les braises de la discorde? On imagine surtout que le président américain aurait voulu se présenter blanchi devant les parlementaires. Or il devra a priori attendre demain pour être, selon toute vraisemblance, acquitté des chefs d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du congrès. Quelques heures seulement après l'annonce de nouvelles fermetures de frontières avec la Chine, Hong Kong a annoncé son premier cas de décès d'un malade ayant contracté le coronavirus à Wuhan après les Philippines. La veille, c'est donc le deuxième cas au monde d'un décès hors de Chine continentale et c'est ainsi que dans le territoire autonome où les personnels hospitaliers intensifient leur mouvement de grève pour la deuxième journée, nombreux sont ceux à réclamer une fermeture totale désormais des frontières avec le voisin chinois alors que deux postes restent encore ouverts. Les précisions sur place de Florence de Changy.
L'homme de 39 ans est décédé d'un arrêt cardiaque mardi matin. C'était le cas numéro 13 à Hong Kong qui compte pour le moment 15 patients confirmés. Il s'était rendu à Wuhan le 21 janvier. Il était revenu à Hong Kong deux jours plus tard en empruntant le train rapide, mode de transport par lequel la plupart des gens contaminés sont arrivés à Hong Kong. Dès son hospitalisation le 31 janvier, les autorités sanitaires avaient indiqué que le patient était déjà fragilisé par d'autres problèmes de santé. Sa mère, qui n'avait pas voyagé en Chine, est également tombée malade. Elle pourrait être là où l'une des premières victimes d'une transmission d'homme à homme dans la région administrative spéciale de Hong Kong. Ce premier mort du coronavirus intervient alors que les personnels hospitaliers entament une deuxième journée de grève. Ils étaient 2700, parmi lesquels 300 médecins et infirmiers à participer au mouvement hier. Il pourrait être 9000 aujourd'hui. Il réclame une fermeture totale des frontières, estimant que les 70 000 personnes qui continuent tous les jours de passer la frontière avec la Chine augmentent chaque jour le risque de contamination des Hongkongais.
Il avait promis paix, amour et unité à son peuple, sauf que ses 24 années de règne à la tête du Kenya entre 1978 et 2002 resteront surtout synonymes de musellement, de la dissidence, détention arbitraire, torture, corruption. Redoutable politicien, Daniel Arap Moi, maître de l'instrumentalisation des rivalités ethniques dans son pays et pourfendeur du multilatéralisme, est mort ce matin. Il était âgé de 95 ans. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par l'arrivée d'une perturbation. Le ciel sera généralement gris avec des pluies assez fréquentes, notamment près des frontières de l'Est jusqu'au Massif central et près des Pyrénées. Par ailleurs, 6 départements, le Nord, la Marne, les Ardennes, la Meuse, la Moselle et le Bas-Rhin ont été placés en vigilance orange aux inondations. Les 2 départements corses ont eux été placés en vigilance orange au vent violent. Quant aux températures en nette baisse, elles afficheront entre 6 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.